Dans le cadre de la programmation Féminin Pluriel, à l'initiative de nos studios Figeacois, Antenne Doc donne la parole aux femmes. Parce qu'il ne faut pas attendre seulement une journée dédiée pour se préoccuper de l'égalité des droits pour toutes et tous, et pour qu'enfin cessent les violences de toutes formes, et en premier, celles subies par les femmes, il devient plus qu'urgent de se saisir du débat. Et du côté des studios de Cahors aussi, nous rejoignons cet élan de prise de parole en ouvrant les micros à des femmes pour un moment de lecture et de discussion concocté par la compagnie Ilo Z. À l'occasion du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la compagnie Ilo Z décide de s'emparer du sujet et vient se saisir des micros d'Antenne Doc. Parce que la liberté ne se donne pas, elle se prend, et que la liberté d'expression est un moyen de faire évoluer les consciences pour qu'enfin cessent toutes les violences, il est plus qu'urgent de laisser la parole se libérer. Voilà donc l'objectif de la compagnie Ilo Z avec cette proposition radiophonique. Et c'est le moment pour vous de rencontrer Loulou, Léa, Monique et Catherine. Bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Commençons peut-être par parler de cette journée du 8 mars. Avec, n'oublions pas de dire, ce serait toute l'année qu'il faudrait s'occuper de ces affaires-là et pas attendre seulement une journée dans l'année. Alors on commence avec qui pour parler de la journée du 8 mars pour Loulou, peut-être ?
Oui, voilà, donc comme tu l'as si bien présenté, journée internationale de lutte pour les droits des femmes qui en fait prend ses sources dans deux faits historiques. Le Women's Day en Amérique, qui est donc le dernier dimanche de février, en 1909, mais aussi la deuxième conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague en 1910, durant laquelle Clara Zetkin propose cette journée en tant que présidente du secrétariat international des femmes socialistes. Et elle est beaucoup plus tard, cette journée, officialisée par les Nations Unies en 1977. Entre-temps, de nombreux pays s'en sont emparés.
Alors oui, en 1911, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée le 19 mars en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse. Et plus d'un million de femmes et d'hommes ont assisté à des rassemblements pour revendiquer le droit de vote, d'exercer une fonction publique, l'exigence aussi du droit au travail, à la formation professionnelle et l'arrêt des discriminations sur les lieux de travail.
Alors, donc, ça, c'est pour présenter cette journée du 8 mars. Et pour en parler, vous êtes venu avec tout un tas de livres, en fait, pour nous exposer tout ça.
Oui, exactement. Ben voilà, moi, j'ai choisi un livre de Mathilde Larère qui s'appelle « Guns et Roses ».
Le pistolet et la rose.
Voilà. Alors, le titre du chapitre, c'est « Du pain et des roses ». Titre de l'ouvrage oblige, il fallait bien un chapitre sur les roses. L'affaire me semblait au départ assez mal engagée. Les roses m'évoquaient plus la sempiternelle réassignation fleurie à mon genre, quand à chaque 8 mars, magasins, entreprises, administrations diverses persistent à offrir des roses à leurs clientes et salariés pour la journée de la femme. Comment articuler rose et féminisme quand la rose tend plutôt à renvoyer à l'éternel féminin ? Beau mais fragile, décoratif mais périssable. Pour le 8 mars, on veut des droits, pas des roses. Pancarte des 8 mars 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Et puis, le hasard faisant bien les choses, voici qu'en consultant ma boîte mail, je tombais sur un message du collectif féministe et anticapitaliste « Du pain et des roses », partageant avec moi une tribune assignée en soutien aux femmes états-uniennes menacées d'une remise en cause du droit à l'IVG en ce printemps 2022. Mais oui, bien sûr, Bread and Rose, la grande grève victorieuse des ouvrières de Lawrence, excusez mon accent, en 1912. L'hymne féministe, la marche québécoise de 1995, des roses internationales donc. On veut du pain et aussi des roses. Slogan des ouvrières en grève de Lawrence, Massachusetts, 1912. Et pourquoi Bread and Rose, me direz-vous ? Le pain et les roses, c'est le droit au superflu, en plus du nécessaire, l'utile et l'agréable, le fromage et le dessert. Les roses ne sont donc pas l'éternel féminin, mais la beauté du monde revendiquée par les plus dominés. Après la victoire de Lawrence, la bien nommée Rose Schneiderman, syndicaliste et suffragiste, l'explique dans un discours en juin 1912. Ce que la femme qui travaille veut, c'est le droit de vivre, pas simplement d'exister, le droit à la vie, comme la femme riche a le droit à la vie et au soleil, à la musique et à l'art. L'ouvrière doit avoir du pain, mais elle doit avoir aussi des roses.
Pourquoi avoir choisi un extrait de ce livre? Alors, et le livre en question dont tu me sors l'extrait, Monique, dis-moi.
Eh bien, parce que je connaissais Mathilde Larère pour avoir assisté à une conférence qu'elle avait donnée à Port-le-Cat, et aussi parce que je suis abonnée à Arrêt sur Image, et où elle vient parfois raconter les problèmes des femmes sur le plan historique. Donc, j'étais intéressée pour lire des extraits de son livre. Voilà, alors je vais en lire d'autres. Si la séparation genrée des tâches est pluriséculaire, le 19e siècle vient accroître la charge. Déjà parce que, après que Pasteur a vu des micro-organismes s'agiter sous son microscope, faire le ménage, c'est aussi faire preuve d'hygiène. Les femmes ne doivent plus seulement avoir un intérieur rangé, mais voici qu'on les somme de pourfendre les bactéries, d'éradiquer les microbes, de traquer les moisissures. Ajoutez à ça qu'une bonne partie de la bourgeoisie a chevillé au corps la séparation genrée des sphères publiques et privées. Une épouse bourgeoise, ça ne travaille pas, monsieur. Mais il ne faut pas que ça reste oisif non plus. Oh là, non, misère, elle pourrait lire. Et pire, ça donnait à... Ah, non, je n'ose y penser. Une bourgeoise, ça s'occupe et briquer sa maison du matin au soir, c'est une bonne occupation. Alors qu'on pense souvent que les femmes ont été confinées au foyer pour se charger du ménage, c'est plutôt l'inverse. Les tâches ménagères ont été multipliées pour occuper les femmes reléguées au foyer. Aujourd'hui, les hommes mettent la main à la pâte. Ils aident, disent-ils trop souvent. Mais les femmes consacrent toujours plus d'heures par jour aux tâches domestiques que les hommes. 4 heures et 1 minute pour les premières, contre 2 heures et 13 minutes pour les seconds. Selon la dernière enquête de l'INSEE en 2010, des inégalités de partage qui ont des répercussions pour les femmes dans bien d'autres domaines. Elles les freinent dans la vie professionnelle comme dans l'engagement politique ou associatif et limitent leur temps de loisir. Et je ne vous parle pas de la charge mentale. Alors, je vais parler un peu de la Commune. Dans les mois qui suivent l'écrasement de la Commune de Paris, le dessinateur Hector Colomb, dit Moloch, livre une série d'images de combats héroïques des derniers communards et communardes. On y distingue un groupe d'insurgés, eux, la plupart sont des femmes. À gauche, l'image d'une femme à l'abri d'un mur recharge son fusil. L'épisode bientôt se fige pour devenir une figure récurrente des récits de la Semaine sanglante, sous la plume de Louise Michel, mais aussi de Lisa Garay, qui, dans un récit, dit que les femmes tiennent des heures et se font toutes exterminer dans son histoire. Mais dans son histoire qu'il publie quelques années après, elles abandonnent rapidement le combat perdu d'avance pour se replier sur d'autres barricades. Qu'importe. Tous reprennent bientôt la scène dans leur récit. Il s'agit pour les communards de dire l'engagement héroïque des femmes, le soulèvement général de tout un peuple parisien pour défendre la Commune. Mais les mises en récit versaillaises ne sont pas en reste. Elles aussi reprennent l'épisode, mais pour se moquer des hommes dévirilisés, manquant de courage et laissant la défense de leur ville à des femmes, ou pour pointer le dérèglement total d'une subversion qui est allée jusqu'à pervertir l'ordre des sexes et créer des viragos monstrueuses, bientôt des pétroleuses. Une chose est sûre, si les auteurs et autrices de quelque bord qu'ils soient ont voulu parler de cette fameuse barricade des femmes, c'est bien que l'affaire semblait inédite. Certains historiens ont même dit que cette barricade n'avait jamais existé. Mais c'était sans compter sur l'écrivaine Michèle Audin, qui reprend le dossier avec la rigueur qui la caractérise. Elle y consacre un article sur son blog « Ma commune de Paris » en juillet 2017 et reprend les éléments principaux dans l'ouvrage qu'elle a sorti sur la semaine sanglante en 2021. Pour elle, la barricade des femmes a bien existé. Arrêtons ce révisionnisme, tonne-t-elle. Alors, je voudrais finir par trois petites lignes qu'a écrit Mathilde Larère en début de son livre. Voilà. Ce livre est aussi un objet. Il peut servir dans la lutte contre le patriarcat, par exemple en le lançant contre un harceleur de rue.
Très bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces moments de lecture, les autres?
Il y a des sauts dans l'histoire, là.
Mais oui.
Et pas n'importe lesquels.
Et alors, et la suite?
Alors, moi, je voulais parler donc des femmes sorcières.
Autre saut dans l'histoire.
Et oui, saut au Moyen-Âge. En fait, les femmes sorcières ont toujours...
Pardon, objection, votre honneur. Renaissance.
Oui.
Renaissance. Mais les femmes ont toujours existé dans l'histoire, oui, bien avant le Moyen-Âge. Et en fait, justement, à travers ce terme de sorcière, de sorcellerie, notamment les chasses aux sorcières qui ont exterminé, puisqu'il s'agit d'une extermination à travers toute l'Europe, des milliers de femmes, eh bien, en ce moment, enfin depuis un moment, à travers aussi l'écoféminisme, on entend à nouveau, en fait, et c'est brandi comme un drapeau, les femmes sorcières. Mais les femmes sorcières qui se revendiquent elles-mêmes sorcières. Voilà, donc à travers tout ça, c'est aussi... le soin à travers le soin à la terre, à travers le soin avec les plantes, une certaine magie du féminin. Voilà, donc moi j'avais envie de vous lire un extrait d'un livre qui se nomme Âme de sorcière. Bousculer les tabous, avancer à contre-courant, déranger au sein d'une société frustrée. La sorcière est une femme qui parle, qui ose, qui vit sans se soumettre ni négocier. Elle assume son corps et vibre à diapason. Nudité, polyamour, puissance des menstruations, elle danse sa vie à l'infini. Nul doute que c'est pour cette raison que de nombreuses sorcières ont été pourchassées. La plupart d'entre elles ne faisaient pas mystère d'assumer leur féminité, leur sexualité ou d'aider les autres à l'assumer. Voilà, on parle aussi, bien sûr, des faiseuses d'anges, des femmes nommées Lilith. Et on en vient à, donc, la sexualité. Aimer le sexe, aimer l'amour, je ne suis pas sûre que nous, les femmes, ayons réellement été éduquées à cela. Pas plus que la majorité des hommes, d'ailleurs. Un grand nombre d'entre eux restant au niveau de la décharge sexuelle. Peu capable et sans aspiration même à aller chercher la jouissance de la femme et avec la femme qu'ils ont, ou entre femmes ou entre hommes. Pour ma génération, le discours, dans le meilleur des cas, était là. C'était le cas chez moi, enfin chez mes parents. Il y avait bien des livres d'éducation sexuelle, je les lisais, je les relisais, m'en imprégnais, mais les mots restaient enfermés dans les gangs. Coït, masturbation, fellation, il ne fallait quand même pas trop poser de questions. J'ai vite compris que ce serait à l'extérieur que je trouverais ces informations. J'ai aussi vite compris que les plaisirs corporels étaient mes alliés, car ils me rendaient plus vivante, me parlaient du lien avec mon corps, du lien avec les autres. Et cela me faisait envie, me faisait vibrer. Je l'ai su si bien avant ma première relation sexuelle. Pourtant, il m'en a fallu du temps pour me libérer, autant que faire se peut, de la perception bourgeoise de mon milieu. J'avais suffisamment confiance en moi, en mon corps, en ma capacité à me respecter, me faire respecter pour oser sortir des limites imposées. Juste expérimenter et voir ce que cela me faisait. Je ne craignais et ne crains ni d'être désirante, ni d'être désirée. Bien au contraire. Telle la sorcière de nos fantasmes, celle qui tant imaginée, j'ai toujours aimé transgresser les interdits que l'on m'avait fixés pour aller vers ce champ des possibles que constitue la sexualité. J'ai aussi eu une chance immense, celle de rencontrer des êtres capables de m'initier toujours davantage au jeu de l'amour, dans l'audace et dans la joie. Voilà ce petit court extrait.
Donc, tu me rappelles le livre, Léa ?
Âme de sorcière, Odile Chabriac.
Et alors, pourquoi avoir choisi de parler de cette femme sorcière ?
Eh bien, j'avais à l'origine aussi envie de lire un passage de L'Amant de Marguerite Duras, et puis L'Amant japonais de Isabelle Allende, et puis Écrire la vie d'Annie Ernaux, et puis Anaïs Nin, ce que je voulais vous dire. Voilà, donc, et en fait, je me suis dit, bon, on va choisir une autrice qui n'est absolument pas connue, mais qui parle d'un thème qui est aussi très tabou et qui est voilà, aussi très contemporain, parce que nous autres, les femmes, quand on nous dit, voilà, quand on parle trop, on en parlait tout à l'heure, ben dis donc, est-ce que tu as des couilles, toi ? Ou alors, toi, tu parles comme un homme ? Ou alors, oui, vraiment, tu devrais apprendre à te taire. Voilà. Donc, en fait, tout ça, finalement, ça rejoint aussi cette image de la femme qui doit rentrer dans un carcan. Et qui mieux que la femme sorcière a été celle qu'on est allée jusqu'à brûler, en fait. Et donc, quand on dit, nous sommes toutes les petites filles des sorcières que l'on a brûlées, et nous sommes toujours là pour... ben voilà, nous avoir une parole le plus libre possible. Je dis bien le plus libre possible parce que quel que soit le milieu dans lequel on a grandi, que ce soit un milieu ouvrier, populaire, un milieu bourgeois ou un milieu aristocrate ou je ne sais quoi, de toute manière, l'objectif c'est d'aller quand même vers plus de liberté, vers plus de droits de liberté des femmes. Et y a toujours la sorcière qui apparaît, en fait.
Et prendre la parole, c'est aussi un moyen de pouvoir aller vers cette liberté en question.
Exactement, exactement. Et surtout ne plus se taire, parce que la parole, c'est pareil, la parole, elle est conditionnée. C'est-à-dire, on veut nous la mettre dans un petit carcan. Alors, tu peux parler en tant que femme, mais surtout, alors...
Le 8 mars, voilà. Tu peux parler le 8 mars.
Le 8 mars, voilà. Mais s'il te plaît, tu ne parles pas trop fort, tu ne rigoles pas trop fort, tu ne marches pas trop fort. Enfin, voilà, il faut vraiment rester dans la forme. Hein. Mm-hmm. Même la liberté, prétendue liberté des femmes, elle est hyper conditionnée. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'écarter les murs. Mm-hmm. Voilà,
très
voilà.
Bien.
Ouais, moi, j'ai envie de dire que j'ajoute à ce que tu dis, Léa, le fait que, simplement, dans ce qui est écrit, on voit bien que l'écriture inclusive a du mal à prendre toute sa place, c'est-à-dire que féminiser, mettre des adjectifs ou des noms féminins, c'est pas encore gagné.
Oui, ça c'est vrai que l'Académie française bloque un peu de ce côté-là, mais bon, en même temps, il n'y a pas beaucoup de femmes présentes à l'Académie française non plus.
Oui, oui.
Et puis elles doivent pas être pour la réforme. Et l'Académie française, quand elle a été créée du temps de Richelieu, a fait le contraire, parce que avant, il y avait le yel, il existait, c'était le on que nous employons comme un nous. Et avant, quand on a les adjectifs étaient pour le nombre le plus important. Par exemple, on dirait les infirmières, et jamais les infirmiers ou infirmières, on dirait les infirmières à l'époque. Et de plus, c'était dans l'ordre de la phrase, que les hommes et les femmes sont belles ou que les femmes et les hommes sont beaux. L'adjectif le plus proche, voilà. C'est Richelieu qui a fait changer ça en disant que le genre noble, vous comprenez de qui il s'agit, devait l'emporter sur le genre vulgaire. Vous devinez aussi de qui il s'agit.
Très bien. Alors, et bien après tout ça, si on continue à explorer les lectures amenées.
Je veux bien lire un texte.
Alors à toi Catherine.
Qui s'appelle « Je suis femme ». Je suis femme et je ne veux plus ce que jamais je n'ai voulu. Je ne veux plus être prise, mais prendre de la vie tout ce qu'elle peut m'offrir. Être prise, oui, seulement si je désire le don et l'abandon. Je ne suis ni chose, ni instrument dont on peut se servir, se vanter ou se parer. Ni le bien de quiconque, ni l'objet qu'on consomme. Souveraine je suis et à nul n'est permis de m'acheter ou de me vendre. Parce que je suis femme, Je ne veux plus être insultée par ta frustration, agressée par ton impuissance, frappée par ta colère, violée par ta honte, bafouée par ton orgueil. Parce que mon corps est doué pour la joie, je ne veux plus, par l'imposture de mon père et par la soumission de ma mère, être excisée. Je ne veux plus être cousue et mutilée, parce que c'est à moi qu'appartient d'ouvrir la porte de la vie et celle de ta joie. Je ne veux plus être exhibée sur la scène de la honte ou de la gloire de quiconque. Je ne suis ni la punition, ni la récompense de personne. Je veux choisir la loi qui convient à mon genre et la voir respectée en tout lieu et partout dans le monde, que soit ôté le bâillon qui muselle mon génie. Je suis femme par l'esprit et nul ne peut m'aliéner à son ambition. Je suis femme par le cœur et nul ne peut me soumettre à sa volonté. Je suis femme par le corps et nul ne peut me réduire à son désir. Je suis femme et je rends hommage à mes sœurs brisées et à celles dont le courage nous a restaurées souveraines dans la dignité de nos vies. Je suis une, indivisible, la chair, le cœur et l'esprit. Alors ce texte a été écrit par un homme qui s'appelle Francis Kans. Qui est l'auteur et qui est déjà venu à cette antenne.
Alors pourquoi tu as choisi ce texte, toi Catherine ?
J'ai trouvé que ce texte était intéressant dans la mesure où, premièrement, c'est un homme qui l'a écrit, mais c'est un homme qui revendique sa part féminine. Donc le féminin n'est pas forcément l'apanage de la femme, selon moi. Et s'il y a tellement d'inégalités, c'est peut-être que justement beaucoup d'hommes refusent cette part féminine en eux-mêmes, qui pourrait faire en sorte qu'on se comprenne un petit peu plus, peut-être.
Par rapport au sujet dont tu parles, peut-être on peut parler aussi, du coup, profitons de ce petit moment-là, pour parler de cette émancipation que peuvent faire les hommes, c'est-à-dire il y a aussi une image masculine, c'est une image féminine qui est imposée à la société, il y a aussi une image masculine qui est imposée à la société, et être un homme et reconnaître sa part, la part féminine en soi, sa part de féminité, c'est tout aussi mal vu qu'une femme qui parle fort et qui rote. Quelque part.
Malheureusement.
Hélas. Il y a ça aussi qui est à faire comme bond en avant dans la société aussi, un peu à un moment donné. C'est-à-dire que nous aussi, les hommes, pouvons nous émanciper un petit peu de ce qu'on en attend forcément de nous et de représenter cette espèce de personnage bourru. Et non, il y a tout un tas d'autres personnalités que l'on peut aborder, comme ça, que l'on peut avoir.
Au travers des textes qu'on a déjà lus et qu'on va continuer à lire, je pense que ce qui ressort, c'est qu'il y a eu une manipulation politique depuis très très longtemps. Qui nous mène à ça, c'est-à-dire
politico-biblique.
La répartition, oui, voilà. Là, oui, on peut mettre ça aussi, le goupillon, bien sûr. Il en fait partie, mais c'est beaucoup plus pratique pour arguer du fait que, par exemple, économiquement parlant, on peut pas accéder à certains métiers, et inversement, que certains métiers sont, notamment les métiers du soin, sont réservés aux femmes. D'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour souligner le fait que nos soignantes suspendues, je dis bien nos soignantes, parce qu'elles sont majoritairement des femmes, on revendique, on soutient par pétition la réintégration de ces personnes-là qui sont depuis 15 mois sans travail.
Et donc, tant qu'on en a parlé de la situation du travail des femmes, parlons aussi de l'égalité salariale. Un jour ou l'autre, ça va arriver, ça, tu crois ?
Exactement. On continue le combat. Il n'y a pas de raison.
Je pense qu'il y en a encore pour quelques dizaines d'années.
Avant d'y arriver.
Pas encore.
Avoir assez de sous pour tout le monde pour la réforme des retraites en faisant l'égalité salariale, c'est pas la solution qu'on va utiliser alors. Hélas. Alors Loulou, justement, toi aussi t'es venue avec des textes.
Alors voilà, je suis venue avec deux textes, j'en ai choisi un. Voilà.
Et lequel ?
Donc j'ai choisi pour un féminisme de joie qui célèbre nos libertés. De Patricia Simon, de 2021. Alors, c'est un texte qu'on peut retrouver sur le réseau des journalistes Medfeminizuia. Voilà, alors je vous explique d'où cela provient. Med pour Méditerranée et Média, Feminizuia pour féministe en français, en anglais, et Nizuia en arabe. Donc, c'est un premier média féministe méditerranéen qui a été créé en 2021 en trois langues, donc l'anglais, l'arabe et le français, et qui est produit par un réseau de femmes journalistes de différents pays de la région. En fait, sa priorité, c'est de rendre visibles et compréhensibles les mouvements et les activités féministes autour de la Méditerranée. Et en fait, cette plateforme, elle répond à un besoin d'échange et d'informations qui sont à la fois vérifiées, équilibrées et surtout qui déconstruisent en fait les stéréotypes misogynes et racistes ainsi que les fake news. C'est-à-dire que leur objectif aussi, c'est de lutter contre l'alliance d'extrême droite hein, dans une bonne partie de la planète. Alors on peut citer bien sûr chez nous hein, Le Pen, Zemmour, mais aussi Netanyahou, mais aussi Bolsonaro, mais aussi Trump, enfin bon, quelques-uns.
Il y en a du monde.
Voilà. Donc qui n'ont que des projets involutionnistes. C'est-à-dire qui sont d'une profonde misogynie hein, et avec un agenda international contre les droits des femmes. Donc, il s'agit de mettre en place des moyens de résistance et de lutte et dont fait partie ce réseau de féministes. Voilà leur objectif principal. Donc, je vais vous lire son article intitulé « Je suis une féministe parce que je crois en mon droit d'être moi-même et non pas une version de moi dictée par un État, un dieu, un parti, un homme ou même une autre féministe. Je me permets de commencer par expliquer pourquoi je suis féministe. Je suis féministe parce que je veux que tous les êtres humains soient également libres et jouissent des mêmes droits humains. Pouvoir exercer mon droit de penser de la manière dont je veux et de l'exprimer comme je le peux, tout en surmontant de multiples contraintes, de hauts murs et des obstacles idéologiques. Comme beaucoup d'autres féministes autour de moi, j'ai observé une tendance croissante à la réduction suffocante quand il s'agit d'interpréter le monde et la manière dont nous estimons qu'il est acceptable. Ayant voyagé aussi loin, je ne peux me permettre d'entrer dans de nouvelles cages, de nouvelles tribus, ou de faire partie de nouveaux troupeaux avec mes deux pieds. Rien n'est plus antiféministe que de se soumettre à une entité ou une idée supérieure. Dans un premier temps, les femmes se sont vues refuser la capacité de penser, puis d'exprimer publiquement les opinions qu'elles ont développées et le fruit des discussions qu'elles ont menées. Actuellement, beaucoup d'entre nous connaissent ce que j'appelle une faim vorace, accumulée au cours des siècles, pour écouter et explorer cette grande diversité de voix et, dans certains cas, pouvoir se forger leur propre opinion et la partager, lorsque c'est nécessaire, avec le reste de la société. Cet acte essentiel peut sembler simple, mais il nous a coûté des siècles de donjons, de bûchers, de mauvaises blagues et de viols, et il en coûte toujours autant à des millions de femmes dans le monde aujourd'hui. Des femmes qui se battent pour empêcher les autres de les traiter comme des animaux domestiques, ou encore moins. Personne ne devrait oser demander le silence ou l'autocensure au nom du combat pour l'égalité. L'égalité sans liberté est une nouvelle cage dans laquelle nous devrions refuser d'entrer. La solidarité, la sororité, la lutte pour la justice sociale et la participation politique sont, comme l'écrit la théoricienne politique Hannah Arendt, une forme d'amour, entre guillemets, l'amour du monde. Si le féminisme est amour, celui-ci doit être libre et altruiste. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est aussi une valeur, et en tant que telle, c'est une pratique, un muscle à construire et à développer. C'est pour cette raison que le féminisme ne peut pas être un espace pour créer sa propre marque, se glorifier, imposer ses opinions comme des vérités catégoriques et encourager les « entre guillemets chasses aux sorcières » contre celles qui sont considérées comme rebelles ou désormais transformées en ennemis jurés. La réalité est complexe. Par conséquent, toute analyse simpliste risque de ressembler à ce que les populistes d'extrême droite et d'autres bords politiques adoptent et promeuvent. Le féminisme devrait être exactement le contraire. c'est le mouvement qui non seulement reconnaît la complexité, mais l'aborde aussi avec l'enthousiasme qui nous incite à vouloir comprendre, à fuir les préjugés et à valoriser le discernement. Je suis féministe parce que je veux que toutes les filles et les femmes du monde aient le droit d'être libres penseuses. Je ne serai peut-être pas d'accord avec toutes, mais j'aimerais que les voix de toutes aient un espace pour être entendues. Si j'ai appris une chose en travaillant sur les violences faites aux femmes depuis 15 ans maintenant, c'est qu'il nous reste encore un long chemin à parcourir pour mieux appréhender la manière dont les violences nous définissent en tant que société et nous affectent en tant qu'individus. Toutes les violences faites aux femmes ne sont pas sexistes, pas plus que les nombreux griefs ou discriminations qu'elles subissent. La violence verbale peut n'être que de la violence verbale, et elle est évidemment différente de la violence physique. Le harcèlement est du harcèlement, à ne pas confondre avec la torture. La traite à des fins d'exploitation sexuelle n'est pas la même chose que la prostitution. Les différences d'inégalité entre hommes et femmes ne peuvent être interprétées de manière infaillible sans analyse intersectionnelle, tout comme le harcèlement et les abus ne doivent pas être interprétés sans tenir compte des positions des personnes de la classe sociale, ainsi que de la différence d'âge entre les personnes concernées, etc. À quoi ressembleraient nos solutions si nous confondions ou ne reconnaissions pas les nombreuses nuances et différences qui existent? À quel discours dangereux sur ce que nous pouvons faire de notre propre corps cela nous conduirait-il, parfois même avec notre libre arbitre? Quel impact est-ce que cela aurait dans d'autres domaines, comme pour le droit à l'avortement, par exemple? Si nous voulons cesser d'être l'objet d'un capitalisme extractiviste, nous devons aussi éradiquer cette image des femmes comme des êtres fragiles, dépourvus de droits de décision. Remarquez, beaucoup de ceux et celles qui ont le moins à perdre savent mieux que quiconque que pour vivre librement, cela vaut la peine de prendre des risques, quand bien même nous trouvons leur manière d'être souvent inconcevables. Et malgré leur situation de vulnérabilité, ils et elles connaissent cette vérité, sont conscientes de leur petite marge de manœuvre, tout comme de leur sac à dos de douleurs accumulées. Selon moi, il est clair que la liberté comporte des risques que nous devons assumer si nous ne voulons pas accélérer ou contribuer à la vague involutive dans laquelle nous avons déjà plongé. Depuis le 11 septembre 2001, le dilemme égoïste de la sécurité contre la liberté imprègne toutes les facettes de notre vie publique et privée. La peur de l'imprévu, le douloureux et l'irréversible ouvrent grand les portes aux États dotés de formes de démocratie libérale, y compris ceux gouvernés par des partis progressistes, afin de reconfigurer leur rapport aux citoyens à l'aune d'une approche sécuritaire. Main dans la main avec les industries de l'hypervigilance et du contrôle social, nous sommes espionnés car nous sommes toujours potentiellement méfiants. Ainsi, l'État est un gigantesque ministère de la Défense dans lequel ses citoyens sont perçus comme l'ennemi. Dans ce cadre, les femmes sont, en tant que citoyennes, des sujets également dangereux et en tant que porteuses d'une condition supposée vulnérable, des sujets à protéger. Il est alors normal que le système soit submergé par ses propres contradictions internes. Le temps est venu d'une véritable réinitialisation et nous devons tout remettre à zéro en exigeant d'être les actrices et acteurs de la refonte de notre société. Si nous ne parvenons pas à le faire, nous continuerons à tomber dans la culture pernicieuse de la victimisation. Notre valeur sera évaluée en fonction du degré de discrimination de violence, d'appauvrissement et de douleur que nous subissons. Pourtant, il apparaît clairement que nous sommes parvenus jusqu'ici grâce à notre capacité à nous battre, à vaincre et à profiter. Sans la jouissance, nous ne parlerions ni de droit ni d'égalité, mais de martyrs. Or, nous en sommes venus à jouir de nos droits et de nos libertés, alors défendons-les et élargissons-les. Voilà pour ce texte. Alors, d'abord, pourquoi j'ai choisi ce texte ? Mmh. Alors, j'ai choisi ce texte parce que c'est un groupe de féministes, d'abord dans le pourtour de la Méditerranée, donc ouvert à de diverses cultures, et pouvant accompagner des questionnements justement autour du féminisme, d'une manière non ethnocentrée, ce qui est une bonne chose. Ensuite, c'est d'actualité, puisque c'est d'abord la lutte contre l'extrême droite et contre une société involutive, justement, dont on voit en effet les contraintes de plus en plus. Notamment, elle l'aborde, hein, le contrôle social, le fait d'être dans cet environnement soi-disant sécurisant, mais en fait qui est hyper sécuritaire et qui est très très violent parce que liberticide. Et donc, c'est ce qui est intéressant dans ce texte, justement, parce qu'elle fait le lien, elle fait bien le lien entre les politiques actuelles, qui sont soi-disant modernes, qui se veulent modernes, mais qui en fait prônent le contrôle social, ni plus ni moins, hein, et l'ordre social. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce groupe de journalistes, donc, qui vont nous interpréter, en fait, l'actualité, par ce prisme écoféministe et international et global. Voilà pour ma part. Alors, j'avais hésité avec un texte d'Emma Goldman, donc rien à voir au point de vue historique, puisque c'était au début du XXe siècle, justement, qui abordait donc le problème de l'émancipation des femmes. Donc on peut trouver ce texte dans Emma Goldman, La liberté ou rien, qui a été publié en 2021, voilà. Mais bon, j'ai préféré quelque chose de plus actuel.
On se fait une pause musicale en compagnie du groupe Des Orientales avec Les femmes ne meurent pas, avant de revenir en compagnie de Monique, Catherine, Léa et Loulou.
Les femmes ne meurent pas, au front, leur tête ne roule pas, comme une balle de golf. Elles ne dorment pas, sous une ramure de feu, ne réduisent pas le ciel en cendres. Aucune neige ne vient refroidir leur cœur. Les femmes ne meurent pas, au front, n'expulse pas le diable de Jérusalem, ne font pas sauter de pont ni de voie ferrée, ne sont pas maîtres dans l'art de la guerre, et non plus dans l'art de la paix. Les femmes ne meurent pas. Les généraux, ce n'est pas elles, ni les soldats inconnus de pierre au beau milieu d'une grande place. Les femmes ne meurent pas, au front, elles sont statues de sel, au musée du Louvre, des mères comme Phèdre, des maîtresses d'Henri VIII, des vapéronnes, des reines conseillées par un premier ministre. Des cuisinières, des blanchisseuses ou des poétesses romantiques femme ne meurent pas. Les femmes ne meurent pas. Les femmes ne font pas l'histoire, mais au bout de 9 mois, l'expulsent de leur ventre, puis dorment 24 heures durant, comme le soldat qui revient du front.
Revenons à présent en compagnie de Monique, Loulou, Léa et Catherine et poursuivons notre conversation autour de cette journée internationale des droits des femmes.
Alors, pour poursuivre, je voudrais vous poser une petite question, enfin deux questions. Tout d'abord, j'ai devant moi 4 femmes. Pour vous, être une femme, c'est quoi?
Alors là.
Aujourd'hui, en 2023.
C'est de la lutte.
Oui, voilà.
De chaque jour.
Alors pour Catherine, c'est de la lutte?
C'est décrypter les petits signes qui font que, définitivement, politiquement, économiquement, on est rabaissé. C'est avoir l'oreille tendue aux petites réflexions, aux façons de parler qui sont entrées dans les usages depuis bien longtemps. Savoir du réflexe, être une femme.
D'accord. Monique?
Pour moi, c'est avoir aussi de l'espoir parce que, comme je suis la plus âgée des 4, j'ai quand même vu des changements dans le droit des femmes. Bon, ce que j'espère, c'est que la lutte continue, qu'on continuera à avoir plus de droits et que ça ne reviendra pas en arrière.
D'accord. Léa?
Pour moi, être une femme, c'est exister dans toute sa splendeur, dans repousser les limites et être en quête de liberté. C'est aussi s'inscrire dans l'histoire de ce qu'ont vécu nos ancêtres femmes, parce que même si tu veux l'éviter, tu ne peux pas l'éviter. Et essayer de se battre aussi pour les autres femmes, pour le droit des jeunes femmes aujourd'hui, des femmes aujourd'hui en Afghanistan qui n'ont pas le droit d'aller au lycée ni à l'école, les Iraniennes qui se battent, les Kurdes, en fait, toutes les femmes, et avoir conscience aussi de ça, en fait, c'est-à-dire aussi avoir conscience de nos privilèges, ici en tout cas en France, mais qui sont issus de luttes. Donc effectivement, je rejoins ce que tu disais, ce que vous disiez, c'est toujours être en lutte et en fait avoir vraiment conscience, parce qu'on nous le rappelle assez vite, que rien n'est jamais acquis. Hein, que ce soit les droits à l'IVG, les droits à la santé, les droits au travail, les droits. Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais vous les femmes, dans la cuisine, c'est mieux hein. !» Bon voilà, il y a toujours des choses comme ça où t'as beau être le plus libre possible, le plus égalitaire possible, où t'en as toujours un ou une, ça peut être une femme aussi, qui te ramène une certaine réalité et qui te fait comprendre « Attention madame, mademoiselle, ma petite, surtout ne baisse jamais les bras !»
Et toi Loulou?
Alors, pour moi, être femme, c'est en effet la lutte. C'est la lutte, alors, dans tous les domaines, dans toutes les sphères, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit au travail aussi, beaucoup au travail. Et c'est sans cesse, d'où l'importance aussi d'avoir des moments de sororité, comme aujourd'hui, comme actuellement. Ou vraiment prendre plaisir à partager des moments entre femmes ou personnes qui se disent femmes, socialement femmes, et avec qui on peut échanger en toute confiance, surtout. Voilà, être femme aussi, c'est chercher la confiance et la solidarité et l'écoute d'autres femmes. Voilà, pour moi, c'est vraiment important. Voilà, on peut avoir des moments de colère, des moments de doute, on peut avoir des disputes. Le tout, c'est de s'écouter et de se comprendre. Voilà, de se comprendre.
Voilà. Très bien. Et après aussi, je voudrais vous demander, chacune, pareil, le féminisme. Votre féminisme à vous, c'est quoi le féminisme ? Parce qu'il y a plein de manières d'être féministe, j'ai l'impression. Catherine ?
Alors, vaste programme.
Ta version du féminisme à toi ?
Moi, ma version du féminisme, c'est déjà perdre cette dépendance affective que bien souvent la femme est obligée de garder en elle par rapport à l'homme. C'est-à-dire que, en fait, l'amour n'est pas bien évidemment réparti pour chacun des deux sexes de la même manière. Et prendre soin de soi d'abord, c'est-à-dire apprendre à se connaître un petit peu plus. Pour les jeunes filles, en tout cas, c'est important qu'elles... qu'elles n'aient pas forcément la même démarche que leur grand-mère ou arrière-grand-mère, c'est-à-dire qu'elles se connaissent vraiment bien au niveau de leur corps, qu'elles sachent dire non. Donc c'est aussi, comment dire, être féministe, c'est faire de la transmission au vu de mon grand âge, à l'aune de ma vieillesse qui commence. Bah ouais, hein, 59 balais quand même, quoi. Ceci étant, je fais une parenthèse, j'ai jamais aussi bien vécu en tant que femme qu'à l'âge que j'ai maintenant. Parce que, voilà, effectivement, Loulou, elle parlait de sororité. Bah ouais, on se regarde plus comme des rivales, beaucoup moins en tout cas. Moi, combien de fois je me suis sentie... un petit peu toisée, ou en tout cas, voilà, les femmes entre elles sont pas toujours tendres, et pour cause, parce qu'elles sont sur un terrain compliqué de rivalité par rapport à l'homme qui, bien souvent, part à la chasse. Hein. Donc, quand on devient plus âgé, c'est vachement plus simple. Puis aussi, voilà, ce regard qu'on peut avoir qui est différent, parce qu'on tire une expérience d'une vie où, voilà, on s'en est quand même pas trop mal tiré. En termes de violence, parce que c'est mon cas, donc je m'estime chanceuse. Mais pour autant, je prends la mesure de ce qu'est la violence faite aux femmes, puisque j'en suis une, donc je peux facilement me la représenter.
Arrête-toi, Monique, ton féminisme à toi.
Bon, mon féminisme, ça a été d'abord de participer dans ma jeunesse à des mouvements comme Que choisir, pour le droit à l'avortement. Je n'ai jamais été au MLAC, mais à Que choisir, enfin, c'est pareil. Hein. Je suis allée dans le groupe qu'il y avait dans le lieu où j'habitais. Donc, ça a été aussi de participer à des manifestations comme celle de Bobigny pour défendre la jeune fille qui avait avorté après un viol et qui risquait la prison pour avoir avorté. Bon, ça a été ça, puis ça a été aussi des petites choses quotidiennes. Déjà, bon, je me suis mariée parce que dans ma famille, on pouvait pas accepter que j'ai un amant. C'était bon, donc pour avoir la paix, je me suis mariée. Bon, ça, mais disons que petite lutte, j'ai gardé mon nom de jeune fille. Je n'ai jamais pris le nom de mon mari. Petite lutte aussi, c'est que je lui ai imposé le partage des tâches. Je me suis mariée en 1978, mais il y a eu un partage des tâches. Voilà, c'est des petites luttes. Et puis, comme j'étais institutrice, ça a été aussi de lutter à l'école, de faire comprendre aux filles qu'elles étaient les égales des garçons, qu'elles ne se sentent pas infériorisées, et aux garçons aussi de respecter les filles. Voilà, ça a été un travail comme ça, de tous les jours.
Alors, et toi, Léa, ton féminisme à toi ?
Alors mon féminisme à moi, c'est dans le quotidien aussi, c'est dans mon travail professionnel, donc c'est partager de la parole avec d'autres femmes, c'est aussi en tant qu'artiste et conteuse et metteuse en scène, avoir une attention particulière sur le sens de ce qu'on dit, de ce qu'on vit, de ce qu'on raconte, des projets que l'on mène. C'est aussi toute l'attention portée quand par exemple je travaille avec des jeunes, notamment, ou même des enfants, où tu t'aperçois que la prise de parole est beaucoup plus simple pour certains jeunes garçons que pour certaines filles. Donc c'est pousser les filles, quoi. C'est vraiment allons-y, on sait absolument pas gagné. En fait, on dit que c'est tout à fait facile. Pas du tout, du tout, du tout. Et plus tu t'approches de l'adolescence, plus tu le visualises. Donc, c'est tout le temps, de chaque jour, à chaque instant, pousser les filles, quoi, en fait. Quand je dis les pousser, c'est-à-dire les amener à prendre de la liberté, à s'autoriser à être, à exister, à exprimer ce qu'elles ont à dire, à ne pas attendre forcément que les garçons passent toujours devant, parce que c'est aussi une réalité. Et malheureusement, moi, jusqu'à un certain âge, je pensais que c'était acquis. Autour de, voilà, dans les années 90, je me suis dit, non, mais ça va, c'est acquis, le boulot a été fait. Pas du tout, en fait. Quand on entend que, par exemple, voilà, le planning familial à Bordeaux a été attaqué par l'extrême droite il y a 15 jours, non, c'est absolument pas acquis. Et donc, on peut pas s'asseoir sur nos lauriers. Donc, c'est chaque jour qu'il faut y aller, quoi. Donc c'est ça mon féminisme, c'est une vigilance quotidienne et un combat chaque jour, quoi.
Et Loulou, ta version du féminisme à toi, comment tu le vois, toi?
Alors, comment je le vois, comment je le vis?
Oui, ou comment tu le vis, ouais, ton féminisme. Voilà, c'est, y a, comme je disais, il y a plein de manières d'être féministe et de porter ses valeurs.
C'est ça, c'est ça. Alors, moi, je me suis découverte féministe sur le tard, comme on dit, plutôt vers la quarantaine, en sachant que j'avais quand même auparavant des idées et disons que je me heurtais à certaines choses que je comprenais pas. Voilà. Et ça m'a apporté en fait des réponses. Ça a commencé par ça. Comment je l'ai vécu au début, c'est ça, c'est que ça m'a apporté des réponses. Et ensuite, comment je le pratique, ce féminisme, maintenant, actuellement, là, ces derniers temps? Bon, ben, d'abord avec la compagnie Los Aides, en effet, voilà, dans ces discussions sur les violences, sur nos expériences des violences. Ça, c'est une partie. Une autre partie, c'est dans la famille où on se positionne clairement et où on se heurte à des propos sexistes, voilà, voire même racistes. C'est dans une famille capitaliste, hein, bien entendu. C'est aussi au travail où là on a des comportements qui sont des comportements de harcèlement vis-à-vis de collègues. Donc je défends la collègue du mieux que je peux, dans un secteur privé, bien entendu, dans une petite entreprise de moins de 10 salariés. Donc c'est compliqué parce que là, bien sûr, on n'a pas de syndicat ni aucune structure d'aide. Donc c'est le quotidien, un quotidien qui nourrit aussi beaucoup. Et c'est pour ça que je recentre un petit peu sur ces moments aussi de entre femmes, de discussions, d'échanges qui sont très riches en fait et qui permettent d'apaiser justement le fait d'être constamment en lutte. En fait, le problème, il est là. C'est que ça demande de la force et de l'énergie. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est cette énergie que l'on consomme, on peut pas continuellement être en consommation d'énergie. On a besoin aussi de trouver des sources d'énergie, en fait. Et c'est là qu'il faut équilibrer. C'est là qu'il est important d'avoir cet équilibre. Voilà, voilà. Pour moi, être le féminisme actuellement, c'est ça sur le terrain.
Alors quand même, je voudrais revenir à la question précédente, hein, quand je vous ai demandé à chacune c'est quoi être une femme. Bon, il n'y a personne qui m'a dit c'est s'amuser. Hein. Quand même, je veux dire, vous avez l'air de galérer, hein, les copines. Hein.
Non, moi, je suis super contente d'être une femme. Je suis extrêmement contente d'être une femme.
C'est aussi joyeux d'être une femme, rassurez-moi.
Ah, mais bien sûr que c'est joyeux.
Dans ce cas-là, pour moi, c'est comme d'être un homme, en fait. C'est exister, en fait. C'est la vie, quoi. Mm-hmm. Être vivant, j'ai envie de dire. Être vivante, c'est être vivante. Mais après, effectivement, il y a une particularité. Et même si on veut l'oublier, on te ramène à ça, à la figure. Ah non, mais t'es quand même une femme. Et au moment où tu t'y attends le moins, quoi.
Mais qui te dit ça, Léa? Dis-le-moi.
On
veut des noms.
Ça peut être des réflexions dans le métro, ça peut être des réflexions dans le bus, ça peut être dans la rue, ça peut être des réflexions au boulot, ça peut être des réflexions dans un magasin. C'est-à-dire, c'est ça le quotidien. Ou alors de te faire toiser comme si t'étais un gâteau au chocolat, ou de te dire, oh, mais dis donc, jolie, mignonne. Enfin, tout ça. C'est-à-dire que c'est ça le quotidien. Et en fait, le quotidien, il est depuis enfant. Et toutes les femmes, la plupart, ont vécu ce genre de réflexion. Alors, ça devient banal parce que c'est tellement dans notre quotidien qu'en fait, on le banalise. Mais en fait, c'est... Voilà, un jour, j'en parlais avec un ami, je lui disais, en fait, nous, en tant que jeunes femmes ou enfants, depuis qu'on a, on s'en souvient, qu'on a 4-5 ans, on a vécu ça, quoi. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont sur le cul quand on leur dit ça. Mais est-ce que toi, en tant qu'homme, tu t'es chaque jour fait siffler dans la rue ou alors des petites réflexions de ce type-là? Bah non, en fait. Voilà. Donc, bien sûr qu'on on est heureuse. Enfin, voilà, ça dépend de ce qu'on vit chacune. Mais bien sûr que la vie, il faut aller de l'avant. C'est fantastique la vie. Mais en même temps, il y a cette pression qui nous est mise dessus, où on veut nous écraser au sol. Et il faut tout le temps se relever. Voilà. Et c'est là où se situe le besoin d'énergie, le besoin d'aller de l'avant, le besoin de sororité, de mettre des projets en route et de lutter contre l'adversité. Voilà. C'est pas quelque chose qui est si simple que ça, quoi.
Et alors, repenser la place de la femme dans la société, c'est une chose, hein, je suis d'accord, c'est hyper important à faire. Mais alors, comment on va faire pour que nous, les hommes, de notre côté aussi, on s'y mette à repenser notre place dans la société pour faire un peu de place aux autres, enfin, à vous autres autour?
Moi, je pense que c'est l'éducation. Et là, il y a aussi la volonté des femmes. Parce que malheureusement, c'est surtout les femmes qui élèvent les enfants. Il n'y a pas partage des tâches, enfin quoi que, ça dépend. Et je pense que c'est aux femmes aussi à éduquer leurs fils et leurs filles pour leur, je ne sais pas, mais déjà le partage des tâches en aidant à la maison. Ne pas dire quand un garçon pleure, oh tu pleures comme une fille, mais le consoler. Il n'y a pas de honte à pleurer, etc. Plein de choses comme ça, ce sont des détails de la vie. Féliciter sa fille et être aussi fière de sa fille si elle réussit que son garçon et ne pas attendre que ce soit le garçon qui réussisse. Voilà, plein de détails comme ça, je pense que c'est très important parce que dans les lois pour l'instant, je crois, peut-être que je me trompe, hein, vous me corrigerez, je crois que la plupart des lois écrites sur le papier sont à l'égalité, même le travail salaire égal est écrit dans la loi, il n'est pas appliqué. Je pense qu'en fait, c'est les mentalités qu'il faut changer.
Et ça, pour changer les mentalités, ça passe par la prise de parole, par l'éducation, comme tu viens de le dire, Monique, par l'expression artistique, comme le fait Léa, et par plein d'autres canaux aussi.
Oui, par la prise de micro, par exemple, aussi.
Oui, par les débats, par les échanges, par la confrontation, par ouvrir les écoutilles, par des films, par la créativité, par finalement, en fait, il faut que ça se frictionne, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des rencontres. Si chacun reste dans son quant à soi, dans sa pensée, dans ses moi, j'ai raison, ça va pas trop changer, quoi. Parce que le but du jeu, c'est quand même de bien vivre tous ensemble. Et c'est pareil la lutte contre le racisme et contre les discriminations. C'est-à-dire d'arriver à respecter l'autre et pas de vouloir écraser la tête de l'autre parce que t'es une femme ou parce que t'es ci ou parce que t'es ça ou parce que tu corresponds pas à ce que je recherche, parce que tu me déranges finalement. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi, à l'échange de trottoir. Et puis, non, mais voilà, c'est ça, hein, c'est de se dire, finalement, c'est l'altérité, quoi, c'est rencontrer les autres et accepter aussi que, par exemple, si une femme parle, moi, ça m'est arrivé, toutes les copines, ça leur est arrivé, par exemple, on te fait taire parce que tu déranges, mais en fait, ça n'a pas lieu d'être.
Oui. Normalement, on devrait pas.
Ou une femme qui rentre dans un café alors qu'il y a que des rugbyman et tu te fais regarder, non, mais ça l'a pas. Il y a pas de ça, voilà. Ou des quartiers où faut pas passer parce que t'es aussi bien une femme que ou je pense aussi à quelqu'un qui est transsexuel, c'est pareil.
Mais ou tout simplement aussi un fait qu'on, enfin voilà, on n'en parle pas souvent quand les téléphones sonnent pour les démarchages, notamment dans les entreprises. Est-ce que je peux avoir le directeur d'établissement? Est-ce que je peux avoir le chef d'entreprise? Est-ce que je peux avoir le chef de service? Et c'est arrivé souvent, on ne s'attend pas à ce qu'une femme puisse être directrice ou avoir un poste à responsabilité aussi.
Oui, et puis quand tu es une femme et que tu veux avoir des responsabilités, on te dit, écoute, t'exagères un peu trop, t'es un peu trop d'ambition, hein. Tu te prends pour Wonder Woman, allez, reste à ta place.
Non, ou alors t'es une carrière de mec, quoi, à ce moment-là.
Voilà, ou t'as des couilles, ou... Ouais, dis donc, tu parles comme un mec, hein.
Oui, sans vouloir être trop vulgaire aussi, il faut faire gaffe à cette forme de féminisme, la femme peut être un connard comme les hommes.
Absolument.
Ce qui amène des premières ministres à faire son travail de première ministre sans aucune empathie dont elle pourrait faire œuvre en tant qu'être humain.
Oui, bien sûr. Bah, après, c'est comme la problématique de Thatcher aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es une femme que tu n'es pas capitaliste, que tu n'es pas banquière et que tu n'es pas dans la répression. Hein.
Faudrait
c'est...
pas qu'au nom du féminisme, au nom d'un certain féminisme, pour ça que je demandais aussi comme ça, quel est votre féminisme ? On a parlé de l'extrême droite, hein, notamment tout à l'heure avec Loulou, et qu'au nom, comme ça, on va dire, dans une forme d'idiocratie médiatique, au nom de donner du pouvoir à la femme, on se retrouve avec une femme d'extrême droite un jour au pouvoir. Il faut faire aussi attention.
Ah, mais bien sûr, mais bien sûr.
C'est ça, voilà. Faut faire hyper attention à comment ce message de donner, on va dire, un peu de pouvoir à la femme ou donner une place, tout simplement, à la femme, que ce ne soit pas non plus mal utilisé.
Bien sûr, tout est éminemment politique. Hein, et c'est pas parce que tu es une femme que tu es forcément quelqu'un qui n'est pas d'extrême droite. Tu peux tout à fait... Voilà. Il y a un croisement, en fait, à avoir entre le féminisme et le politique. Et le féminisme est éminemment politique. Mais tu peux aussi, malheureusement, tu as aussi des femmes qui se prétendent féministes et qui sont d'extrême droite. Donc c'est clair que nous, on ne défend pas du tout la même chose, en fait.
Oui,
parce
mais
que
voilà,
quand tu as l'extrême droite, finalement, il faudrait que les femmes aillent à la cuisine parce que la place des femmes... Et c'est à la cuisine, c'est là où elles sont vraiment. Voilà. Et puis aussi, je ne sais pas si on en a vraiment parlé, mais la place de la femme en tant que procréatrice. Là, quand on a gagné le droit à l'IVG, qui n'est jamais complètement acquis, c'est aussi parce que la femme avant était donc un objet pour l'homme. Et voilà, ça reste encore dans beaucoup de mentalités ça. C'est-à-dire que c'est un objet pour l'homme et le seul objectif, c'est qu'elle procrée, en fait. Donc elle n'a pas besoin d'aller à l'école, hein. Elle n'a pas besoin d'apprendre à lire et surtout pas qu'elle commence à réfléchir par elle-même, non, s'il vous plaît.
Faudrait pas abuser.
Moi j'ai juste un petit truc joyeux à dire, c'est pas le mot de la fin parce que je ne vous prétends pas l'avoir, mais une féministe américaine qui s'appelle Gloria Steinem et qui passait sur un plateau télé avec un journaliste qui lui pose la question, madame, est-ce que vous êtes mariée ? Elle répond non et le journaliste lui dit, bah pourquoi ? Bah parce que, en fait, je m'accouple très mal en captivité.
C'est joliment dit. Oui, j'aime bien.
Moi aussi.
Ah, c'était pour faire rigoler, hein, parce que c'est vrai que ça manque un peu de joie, tout ça.
Mais oui, voilà, c'est là où je voulais dire, quand je disais aussi, mais parce que être une femme aussi, voilà, c'est quand même donner la vie, c'est quand même être joyeux, c'est quand même tout ça aussi. C'est dur, aussi. Il faut se battre, ça je comprends, mais il y a quand même aussi cette manière-là ces images-là, quoi. En fait, hein, voilà, quand on voit le film Debout les femmes, ces chants de femmes, par exemple, y a de la joie, il y a de l'énergie dans le combat.
Mais bien
sûr, il n'y a pas que de l'amorosité.
Non, on dit pas. Bien sûr, il n'y a pas de l'amorosité, mais aussi, c'est aussi la subtilité d'être une femme, c'est que tu sais, parfois on nous dit, allez, il faut sourire sur la photo. On a le droit de faire la gueule aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas sourire. Mais c'est quand on a, nous, décidé de le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas des
voilà. Attention, on a oublié un truc dont on n'a pas parlé. Mais quand tu ne souris pas, qu'est-ce qu'on te dit en général ? Mais t'as tes règles.
Ah oui, ça c'est vrai.
Et ça, c'est insupportable, j'imagine, à entendre.
Absolument.
Moi-même, déjà, en tant qu'homme, je trouve ça insupportable à entendre. J'ose à peine imaginer en tant que femme.
Voilà, c'est pour ça qu'on a envie. Voilà, quand tu regardes tous les catalogues féminins, les magazines, donc je connais même pas les noms. Bref, les magazines féminins avec un corps de femme, dénudée, bien dans la forme, qui sourit, ben en fait, on a le droit d'être autre chose, heureusement quoi. Donc oui, bien sûr, mais quand on est en lutte, voilà, tu vois la manif pour le droit à la retraite à 60 ans, quand les gens sont en lutte, ils sont pas forcément... bien sûr qu'on peut rire, mais on est en lutte, quoi, donc faut pas nous reprocher de pas rire.
Oui,
voilà.
Oui, mais on peut lutter dans la joie, Léa. Quand même.
Ouais, non. Tout à l'heure, quand on a chanté Debout les femmes, tu rigolais pas, toi.
Ouais. Tu veux qu'on chante Debout les femmes ?
Oui, alors tout à l'heure, c'était hors micro, justement. C'est là où j'allais vous y emmener, petit à petit.
On fait les trois premières, allez.
Alors, allons-y.
J'avais pas préparé le truc. J'aurais mieux fait de me taire, hein. Elles parlent toujours trop, ces femmes.
Ah non, moi, je vous y ai emmené, j'en ai parlé de Debout les femmes. Je vous y ai emmené tout doucement.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, femmes esclaves, et brisons nos enfants. debout, debout, debout.
Voilà.
Eh ben bravo.
C'était une impro, hein.
Complètement.
Bon, eh bien, on pourrait parler de tout ça encore longtemps. Je propose que les auditeurs maintenant le fassent aussi longtemps, mais chacun chez eux, et que chacun s'empare un peu de ce sujet un peu plus longtemps que ce fameux 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. C'est important que ce 8 mars existe.
Et oui, d'autant que nous, on va devoir y aller. Parce que c'est pas tout, mais on a la soupe à préparer. Non, je blague. Non, mais c'est pas tout, mais on a un atelier Parole de femmes contre les violences, là, qui nous attend. Donc, on enchaîne. Hein. C'est tous les mardis de 18h à 21h à Cahors.
D'accord. Avec la compagnie ILOZ.
Avec la compagnie ILOZ, il paraît, oui.
Très bien. Eh bien, je vous propose de revenir nous en parler quand vous voulez sur Antenne Doc. Et je vous remercie beaucoup de votre venue.
Et nous, on te remercie.
Merci, William.
Salut, William.
Vous étiez en compagnie de Léa, Loulou, Catherine et Monique. Retrouvez-les avec la compagnie ILOZ tous les mardis à Cahors pour parler, créer et s'émanciper. Pour en savoir plus, composez le 06 42 53 32 68. Et pour terminer, eh bien, nous retrouvons le groupe des Orientales avec le titre « Femmes de Kaboul ».
Ville détruite, ville sainte, rebelle et prisonnière, tes bourreaux sont tes fils, tes filles sont tes douleurs. Elles, vierges ou vieilles, n'en finissent pas de tomber, courbées par le poids de leurs seins trop lourds à porter. Ciel déchiré se disperse dans l'ombre coupable d'exister. Femme de Kaboul qui dévoile la lumière en plein jour. De Kaboul à Paris. Femme de Kaboul qui dévoile la lumière en plein jour. De Kaboul à ici. Jeunes ou vieux ont perdu la mémoire de leur amour tendre, de leur parfum amer. Détruits par les rires qui ne portent pas, détruits par les pleurs que l'on n'entend pas. Nés dans la poussière et le sang de leur mère, ils deviennent des hommes. Kaboul qui dévoile la lumière en plein jour. De Kaboul à Paris. Femme de Kaboul qui dévoile la lumière en plein jour. De Kaboul à ici. Nous, pauvres riches doués d'humanité, à coups de bouche à bouche on sauve les apparences. Buvons la vendange des cœurs, buvons cet élixir qui enivre de joie, buvons à en mourir. Des enfants comme des fruits, cueillant les sourires des vieillards sans bruit, cueillant les souvenirs. Femme de Kaboul qui dévoile la lumière en plein jour. De Kaboul à Paris. Femme de Kaboul qui dévoile la lumière en plein jour. De Kaboul à ici. Femme de Kaboul qui dévoile la lumière en plein jour. De Kaboul à Paris.